Alors, puisque nous sommes dans ce magnifique lieu, la cathédrale qui est dédiée à Saint-Pierre, l'apôtre, j'ai pensé à ce passage où Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, philosophe bien aimé des Genevois, eh bien s'est réfugié dans une petite île Saint-Pierre sur un lac suisse. En effet, en 1762, Rousseau publie deux de ses œuvres majeures, Du contrat social et l'Émile. Et en fait, cela passe mal, très mal. Le Parlement de Paris et les autorités de Genève, les pasteurs y compris, condamnent ses ouvrages. Rousseau doit fuir la France et fuir Genève. Il se réfugie donc sur la petite île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne. Son exclusion de la société humaine est pour lui une réelle souffrance. Mais il va arriver à la transformer en une expérience philosophique et spirituelle. C'est ce qu'il rapporte dans ce livre « Rêverie du promeneur solitaire ». Alors il y fait une expérience qui sera pour lui fondatrice dans sa vie, qui lui donne un bonheur profond, un bonheur spécial, à la fois existentiel, spirituel et philosophique. Je le lis. Le précieux Farniente fut la première et la principale de ces jouissances dont je fis l'expérience. Un état où l'âme trouve une assise assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de se rappeler le passé, ni d'enjamber sur l'avenir, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte, que celui seul de notre existence. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on alors dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même, comme Dieu. Alors Rousseau est profondément en fait théologien et lecteur de la Bible. Cela a nourri ce qu'il exprime ici en termes plutôt laïcs, séculiers. Alors je vous propose d'abord de partir à la recherche des sources bibliques de ce précieux Farniente qu'évoque Jean-Jacques Rousseau. Le premier à s'y adonner, c'est Dieu lui-même, comme le disait Matthias Wirz. C'est ce que nous raconte la Genèse, donc dès les premières pages de la Bible, c'est pour dire comme c'est essentiel. Je lis. Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, portez du fruit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, il vit que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour de la création. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite et il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Et Dieu bénit le septième jour et il le consacra car en lui, il interrompit toute œuvre qu'il avait créée pour qu'elle se fasse ensuite. Nous voyons ici que Dieu a trois gestes essentiels, lui personnellement, mais qu'il nous appelle aussi à faire à son image. La première chose qu'il fait, c'est bénir. Ensuite, il nous appelle à agir dans le monde comme lui est en train de créer le monde. Et puis troisièmement, il nous appelle à cesser de faire, comme lui-même cesse de faire au septième jour. Alors peut-être faut-il préciser que bénir, c'est pas simplement dire une jolie parole. Bénir, quand Dieu bénit l'humain, c'est une ouverture de Dieu vers nous. C'est une main tendue pour s'articuler avec nous. Parce que le mot bénédiction, c'est le même mot en hébreu que le genou, que l'articulation qui permet d'avancer. Et donc, bénir, agir dans le monde et puis se reposer, eh bien, c'est la foi, c'est la prière, c'est l'écoute pour le premier geste, c'est prier, travailler, créer, et puis c'est enfin le farniente. Voilà donc le trépied essentiel, prier, travailler et farniente. C'est ce que la Bible nous propose dès la première page, dès notre création, comme si c'était là notre vocation, comme si c'était la fondation de la vie bonne pour nous. Alors peut-être qu'à notre époque, nous sommes un peu malades d'avoir oublié ce trépied. Peut-être la prière, peut-être le travail, peut-être le repos, le farniente. Alors la Genèse poursuit bien sûr son formidable récit et on voit qu'en tout cas les patriarches, dans cette saga formidable, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, eux, n'ont pas oublié ce trépied de l'existence. Abraham est mis en route par la bénédiction de Dieu. Il avance et il agit ardemment, mais ce n'est seulement que quand il fait place au troisième pilier, après pas moins de 6 chapitres d'aventure, que sa vie va enfin pouvoir devenir féconde. Je vous lis un extrait donc de Abraham au chêne de Mamré. Comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes, ou trois anges, ou Dieu lui-même, étaient debout près de lui. C'est un moment clé de sa vie, bien sûr, un moment de bascule. Ce farniente, c'est un éveil à son être profond. C'est une ouverture à quelque chose d'essentiel qu'il ne voyait pas. Une ouverture à ce qui vient, ce qui survient, qui advient. En effet, ces trois hommes, ces trois anges, Dieu lui-même, ils étaient déjà là, en fait, auprès de lui, et il ne s'en rendait pas compte. Ce farniente d'Abraham nous permet de nous ajuster avec Dieu et nous permet de nous ajuster à la réalité complexe de notre existence. Alors Isaac, son fils, va prendre exemple et va conjuguer lui aussi la prière, le travail. Son travail, c'est de creuser des puits dans le désert. Et puis aussi, nous dit le récit de la Genèse un peu plus loin, le farniente. Vers le soir, Isaac sortit pour musarder dans la campagne. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. C'est là aussi un moment clé de sa vie, c'est là où il va rencontrer l'amour de sa vie, Rebecca, géniale, prophétesse, intelligente et fine. Alors le petit-fils, Jacob, petit-fils d'Abraham, lui aussi va reprendre ce trépied. Il est bien sûr un spécialiste de la communication en ligne directe avec Dieu, avec ses échelles, avec des anges qui montent et qui descendent, avec son combat spirituel, avec son action puissante, mais aussi, viscéralement, nous dit le texte, Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Alors bien sûr, pas tout le temps manifestement, mais quand même, c'est un trait de sa personnalité. Et c'est ça qui lui permet d'être ouvert à des possibles inouïs et d'oser tracer un chemin de bénédiction malgré tous les obstacles. Alors après la Genèse, je pense ensuite à ces psaumes qui sont jalonnés de ce mot hébreu, « Selah », parfois traduit par « pause » dans nos Bibles. On n'y fait pas tellement attention finalement, mais c'est un appel à faire effectivement une pause, même dans notre prière, même dans notre louange, une pause même dans notre écoute de Dieu. C'est un temps d'arrêt pour laisser la prière agir, comme on laisse reposer la pâte quand on a mis du levain. Trouver ainsi l'assise de notre être, comme le dit Rousseau. C'est ce que propose cet extrait de psaume, du psaume 142, que je vous propose d'entendre maintenant. Arrêtez, nous dit Dieu, et sachez que je suis Dieu, au-dessus des nations, au-dessus de la terre. L'Éternel des puissances est avec vous, le Dieu de Jacob est pour vous une haute retraite. C'est là. Pause. Et donc ce bout de psaume nous propose ainsi d'ajuster notre être dans notre vie, dans notre existence. Non pas au-dessus de Dieu, en lui donnant des ordres, « Fais-moi ceci, donne-moi ça », mais prendre le temps de reposer notre être dans la confiance en Dieu qui garde notre être de toute façon et qui est puissant. Ensuite, on voit Jésus lui-même pratiquer ce temps de retrait hors de toute activité, son activité principale qui était d'annoncer l'Évangile, de venir au secours de ceux qui souffrent. Eh bien, régulièrement, on voit Jésus cesser son travail, c'est-à-dire renvoyer les foules, renvoyer même ses plus proches pour prier, mais aussi simplement pour être un moment seul, comme dans ce passage de l'Évangile selon Jean. Sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui, tout seul. Là aussi, c'est un moment clé du récit. Voyez, Jésus renonce ou refuse ce destin d'être roi politique. C'est un moment clé de son existence qu'il permet, que voilà, le farniente, ce retrait lui permet de travailler cela. Et finalement, dans cette relecture à grands traits de la Bible, de la Genèse, je vais jusqu'à l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse est un texte très curieux. L'Apocalypse parle en réalité du présent. Elle parle de l'accomplissement du salut dans notre vie en cours. Alors je vais vous lire cet extrait du livre de l'Apocalypse qui fait dire aux mauvaises langues qu'il n'y aura pas un seul pasteur dans le paradis. Il ouvrit le septième sceau. Alors il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors c'était une bonne idée de prédication de mettre une demi-heure de silence pour expérimenter cela, mais il paraît qu'à la radio ça passe pas très bien. Donc je vais poursuivre mon explication de ce texte. Le septième sceau, avec ce chiffre 7, c'est quand nous atteignons dans notre évolution quelque chose qui est de l'ordre du septième jour de la Genèse, alliant le 3 du spirituel et le 4 de ce monde. L'harmonie du spirituel et de notre vie en ce monde. Avec aussi donc cet art d'avoir une simple demi-heure de silence, de précieux farniente, formant ainsi avec la prière et l'action le trépied de la vie humaine. Alors pourquoi avons-nous tellement de mal à prendre volontairement, ne serait-ce qu'une demi-heure pour ne rien faire, en silence, comme nos héros bibliques ? Prier, nous y arrivons à peu près. Faire 1000 choses dans notre journée, comme travail, comme loisir, nous y arrivons très bien. Mais ne rien faire une demi-heure, ça nous ennuie, ça nous culpabilise, et peut-être même que ça nous angoisse quelque peu. Ce simple fait montre que se joue là quelque chose d'essentiel, car c'est toujours difficile de toucher à l'essentiel de notre existence. Ça nous angoisse toujours un peu, mais c'est bon, comme le dit Rousseau. C'est bon pour pouvoir poser notre être sur l'être, dans le présent. Non pas sur le faire, non pas sur l'avoir, non pas sur notre passé glorieux ou culpabilisant, non pas sur l'avenir, notre être sur le présent. C'est ce qui permet à Abraham de voir ce qu'il ne savait pas voir. Il a pris la peine de demeurer, nous dit le récit, un moment sans rien faire devant sa tente. Il attend sans savoir ce qu'il attend. Mais il est déjà prêt à replier sa tente. C'est pourquoi ça nous est précisé. Pour se mettre en route encore. En route vers il ne sait pas encore où. Et c'est ça qui est vraiment excellent. C'est ça que permet ce farniente, ce fait de choisir délibérément de prendre un moment pour ne rien faire. Quand on choisit cela, c'est déjà remettre notre être sur notre assise réelle. Nous avions l'impression que pour être, il nous fallait absolument être performant dans nos activités, être performant en amour, et même être performant dans la prière. Alors il est bon de remettre les choses en place, tranquillement. J'existe même quand je ne fais rien. C'est parce que je suis que je peux agir, aimer, penser, prier. Ce n'est pas l'inverse. Et donc, il est bon de prendre le temps de goûter que j'existe. Être en éveil d'un son, de la température, sentir qu'on inspire de l'air, sentir que je peux dire « je », que je pense, que je suis, moi dans le présent, ici. C'est ce que perçoit Rousseau grâce à son farniente dans le léger clapotis du lac que nous avons entendu. Nous n'avons pas à mériter le fait d'être. C'est une pure grâce. On le voit dans ce texte de la Genèse. Quand Dieu bénit l'humain, quand Dieu le voit, le contemple et qu'il dit « c'est très bon », quand Dieu l'appelle humain et le reconnaît même à son image, à l'image de Dieu, c'est avant même que l'humain, que nous n'ayons commencé à prier ou que nous ayons commencé à faire quoi que ce soit. C'est une pure grâce. C'est cela qu'il est bon d'abord de sentir. Eh bien, Jésus, il nous ouvre le chemin afin de pouvoir dire à sa suite ces mots « Je suis ». C'est cela que nous fait goûter, expérimenter le précieux farniente. C'est seulement alors, c'est seulement ensuite que nous pourrons dire cette autre parole essentielle de la Bible. « Hineni » en hébreu, en français « Me voici ». Quand il y a ces mots « Hineni »,« Me voici » dans le texte hébreu, c'est un moment clé où la personne, effectivement, se rend présente à Dieu et au monde. C'est alors qu'elle peut prier et agir, avancer. Mais d'abord, avant de pouvoir dire ça, il faut savoir dire « Je suis », expérimenter cela. Alors ce geste du précieux farniente, comme le dit Rousseau, ça s'exerce, puisque ce n'est pas si facile. Certaines spiritualités invitent à faire le vide en soi. La Bible nous invite ainsi plutôt à nous recueillir, à goûter le fait d'être personnellement. Certains nous invitent au lâcher-prise. La Bible nous propose plutôt de sentir que je suis, qu'il y a du plein, afin de s'en saisir pour pouvoir dire « mon me voici » personnel. C'est ce que prépare le temps où nous choisissons de ne rien faire, restant là, un moment en silence, seul, recueilli, ouvert, comme Jésus le pratique. Rêvasser sentir notre être vivant, notre être dans le présent, ni dans le passé, ni dans l'anticipation, sentir la plénitude d'être, sentir ce souffle qui anime notre âme, notre vie, sentir que nous pensons, que nos sens et nos prières font que nous sommes reliés. Nous sommes et nous ne sommes pas seuls. Dans la Bible, le jour du Shabbat, qui est fondé sur cette parole de la Genèse, une fois par semaine, une fois tous les 7 jours, c'est une façon de codifier cet exercice spirituel, de le présenter, mais bien sûr, c'est à chacune et à chacun de trouver son juste rythme à un moment donné de son existence, de sentir quand prier, quand agir et quand se retirer pour ne rien faire en silence. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à prendre un temps de ce salutaire farniente? C'est que quand nous ne faisons rien, notre conscience nous accuse. J'ai perdu mon temps, je n'ai rien fait. Le philosophe Montaigne constate cela dans son effort pour le farniente. Et il répond à cela, « Quoi? Tu n'as rien fait? Mais n'as-tu pas vécu? C'est non seulement fondamental, mais c'est la plus illustre de nos occupations. La prière et l'action sont dans la vocation de l'humain, c'est vrai, mais sans le farniente, ces nobles activités, sans cesse, nous chuchoteraient encore et encore, « Tu n'es pas assez saint, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez agi. » Non, répond le farniente, tu es déjà saint puisque Dieu te bénit. Alors, notre rêverie peut laisser se combiner librement en nous notre intellect, notre spiritualité, notre émerveillement se tisser au sein de notre « Je suis », grâce à Dieu. Amen.